de ma vie.
Bonjour, bienvenue sur RFI, bienvenue dans le goût du monde pour une rencontre assez emblématique de la cuisine miroir à 360 degrés dans tous les aspects de la vie et reflet de l'histoire, la petite et la grande. Bonjour Dawn.
Hello, good morning.
Dawn Barrow, athlète, olympique américaine, spécialiste du saut en longueur, médaille d'or à Lisbonne, au championnat du monde, aujourd'hui chef cuisinière, top chef même, finaliste du prix James Byrd qui distingue chaque année des restaurateurs ou médias dont le travail met en lumière une communauté ou une cuisine. Thank you for being with us.
Oh, it's an honor to be here.
C'est un honneur d'être ici, dans cet endroit magnifique.
It's an amazing place. It's beautiful.
C'est un endroit incroyable. C'est beau. J'imagine toutes les personnalités qui ont été reçues ici, à la résidence, des hommes d'État, des présidents venus du monde entier. On sent que cet endroit est riche d'histoire et de culture.
C'est un honneur d'être ici et de vous rencontrer. Cependant, nous allons quitter cet endroit quelques instants pour vous suivre. J'aimerais bien que vous nous emmeniez dans un endroit que vous aimez, qui vous ressemble et que vous nous racontiez bien où nous sommes, avec qui, quelle heure il est, la température et qu'est-ce qu'on mange.
I am with family during the daytime.
Je suis avec ma famille. C'est la journée. Je dirais une journée de printemps parce que l'été il fait trop chaud à Houston pour rester dehors. Oui, le printemps, dehors, avec ma famille, ma mère, mon beau-père, tous mes frères et sœurs, et nous mangeons des crustacés, des crabes et des écrevisses. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en manger, il y en a beaucoup sur la côte est des États-Unis, et nous aimons les manger en famille. Un bon bouillon de crabe avec beaucoup de pommes de terre, du maïs et des salades, et de la bière.
Beer.
Et quelle heure est-il?
It's afternoon.
C'est l'après-midi.
Yes, on a Saturday, yeah. Or a Sunday.
Un samedi ou un dimanche. C'est vraiment tranquille, décontracté. On fait cela souvent aux États-Unis. Nous nous réunissons pour préparer et cuire les crustacés, des écrevisses ou des crabes. Et c'est vraiment un chouette moment. On mange avec nos mains. C'est un peu comme, une sorte de rituel.
Yeah. Avoir votre regard pétillé et votre sourire, on comprend tout de suite que c'est un moment très agréable. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous.
J'aimerais inviter tout le monde.
Vous êtes une athlète de saut en longueur, vous avez concouru aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, puis vous avez été médaillée d'or au championnat du monde à Lisbonne en 2001 et après une blessure, vous avez dû prendre votre retraite et vous réinventer. Alors, comment et pourquoi vous êtes-vous tournée vers la cuisine?
Vous savez ce qu'on dit? Aux grands mots, les grands moyens, n'est-ce pas? Alors, quand dans la vie, on doit faire face à la fin de sa carrière, à la fin d'une partie de sa vie, c'est une petite mort, il faut une renaissance. Pour cela, on doit vraiment aller chercher au fond de soi, au plus profond de son âme, pour trouver ce que l'on aime, ce que l'on chérit, au moins autant que ce à quoi on doit renoncer. On pense souvent à tort que lorsqu'on est un athlète, la vie ne tourne pas uniquement autour de ça. Mais en réalité, si, cela englobe tout. C'est tout ce que vous faites dans la vie, tout ce que vous faites en tant qu'athlète olympique. Tout ce que vous êtes n'existe que dans ce seul et unique but. C'est ce qui vous définit, rien d'autre, être athlète. Quand cela s'arrête, il faut trouver un autre but. Et parfois, vous devez réfléchir presque trop tard quand votre carrière est déjà terminée. Il faut donc regarder au plus profond de soi, s'interroger et découvrir une autre facette de soi. Pour moi, c'est la cuisine.
Vous avez dû chercher dans vos tripes cette respiration qui vous anime, cet autre moteur, car tout dans votre vie n'était qu'athlétisme.
Oui, vous savez, quand vous dormez athlète, quand vous mangez athlète, quand vous faites de l'exercice, quand vous méditez, tout est planifié. Organisez, respire votre sport quand vous êtes athlète. Vous n'avez pas forcément besoin de tout cela dans d'autres métiers, de ces routines. Vous pouvez dire « Oh, je peux sauter mon déjeuner avant de retourner à mes papiers ». Vous pouvez faire ça avec un travail de bureau, pas quand vous êtes athlète. Donc oui, il faut donc puiser au plus profond de ses tripes pour trouver une raison de continuer. J'avoue que ce que j'aime vraiment faire, c'est cuisiner pour les gens et manger en famille. La cuisine permet les deux, de donner avec amour et de recevoir. quand vous cuisinez, que vous aimez tellement ça, que cela vous secoue, cela vous émeut, alors vous avez envie de partager avec quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai réalisé. Et au fur et à mesure que je grandissais en tant que chef, c'est fou d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de personnes dans ma vie, autour de moi, dans ma famille, qui avaient une formation culinaire. Je ne savais pas quand j'étais jeune ce que faisaient mes oncles et mes tantes. En fait, beaucoup d'entre eux étaient des cuisiniers.
Ce qui m'amène à vous demander, qui vous a appris à cuisiner, qui vous a transmis ce goût? Votre mère, vos oncles, vos tantes?
Eh bien, ma mère était une mère célibataire de 5 enfants, donc ce n'était pas ses plats favoris qu'elle cuisinait. C'était plutôt « je fais comme je peux avec ce que j'ai ». Elle devait tous nous nourrir. Ma grand-mère avait beaucoup d'enfants, elle aussi, mais elle aimait ça. Des enfants dans les jupes pour l'aider en cuisine, elle déléguait. Et je me souviens, c'était merveilleux d'aller chez elle, de goûter ce qu'elle nous préparait quand nous y allions pour les vacances ou le dimanche. Et c'est de cette manière que la cuisine est devenue si importante dans ma vie.
En tant qu'athlète, vous deviez faire très attention à ce que vous mangiez. Surtout avec un frère athlète lui aussi. Qui s'occupait de votre alimentation chez vous? Votre mère, vous?
Un peu des deux. Notre mère faisait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, en pensant à ce qui devait être le mieux pour nous, pour répondre à nos besoins. Mon frère, Leroy, avait une approche plus rituelle lorsqu'il était athlète au lycée. Il avait des traditions, des rites, oui. Par exemple, avant chaque compétition, il devait manger tel ou tel plat. C'est rituel, oui, et ça n'avait aucun sens. C'est vrai, il se disait « je vais manger ce repas bien lourd avant ma compétition », pas pour l'énergie que ça va apporter à mon corps, mais parce qu'avec ce plat, si je le mange, c'est que ça y est, je suis prêt. J'ai commencé à réfléchir à mon alimentation après l'école, quand j'ai été athlète à l'université. Là, je m'y suis intéressée parce que pour mieux faire, il faut être au point, se renseigner et apprendre davantage sur ce sujet. Et puis, comme le but de ma mère était avant tout de bien nous alimenter...
Et elle n'avait pas forcément tort. Oui, parce que dans les moments durs, dans les hauts et les bas de la vie d'athlète, la nourriture apporte ce réconfort dont on a tous besoin à un moment, comme le fait d'être tous ensemble autour de la table et que vous savez que ça va être bon. Est-ce ce type de cuisine que vous aimez faire?
Ah oui, totalement. Je cuisine des plats réconfortants. J'ai le style de cuisine d'une grand-mère, la vôtre, la mienne, celle de tout le monde. Je veux vous apporter de la chaleur et cette sensation. Vous savez, le bonheur de rentrer chez soi après une longue, longue absence et que vous mangez votre plat préféré, préparé avec amour par votre grand-mère. Oui, c'est ainsi que je cuisine.
That is how I cook.
Comfort food, de la nourriture cocon.
Yes.
J'aimerais parler de Top Chef, Don. C'est un programme télé, on vous voit, et on ne l'a pas encore dit depuis le début de cette émission, mais vous êtes une femme, noire, une chef, sur Top Chef. Qu'est-ce que ça fait?
Which one of them?
Lequel des trois?
Celui que vous préférez, femme et noire, sur grand écran, c'est une réussite, c'est exemplaire.
Oh yeah, well, I made it. Thank you. There are definitely some challenges.
Oui, merci, je l'ai fait. Bien sûr, c'est un défi d'être une femme noire dans la sphère culinaire. Je suis d'ailleurs justement en train de tourner un documentaire sur le sujet. Je pense que le challenge vient du fait que l'on parle du monde majoritairement masculin et blanc. Il est très difficile d'avoir des infos, des portes qui s'ouvrent pour te permettre d'accéder au niveau auquel tu prétends dans certaines cuisines et restaurants aux États-Unis. Maintenant, je pense que si vous êtes déterminée et efficace, vous pouvez dépasser ces obstacles. La question de base étant, pourquoi au juste devrions-nous voir des obstacles se hisser devant nous? Pourquoi devrions-nous nous battre pour obtenir les mêmes accès, pour réussir en tant que femme noire en gastronomie? Je n'ai pas eu à me battre en tant qu'athlète. Mes résultats sont mes performances. Elles sont mesurées, objectives. Elles ne peuvent pas être contestées, alors qu'en cuisine, c'est subjectif. Il est facile d'être doublé, que quelqu'un d'autre soit choisi, même si vous êtes plus compétent, plus fiable que cette personne. Vous devez vous battre pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit, pour devenir chef ou propriétaire de votre restaurant. Dans tous les domaines, c'est plus compliqué si vous êtes une femme noire, pour obtenir des financements.
De quelle manière prenez-vous soin de votre histoire, de vos origines noires?
I honor it, I support it.
Eh bien, je l'honore, je la revendique, je l'aime, je l'élève et je fais de mon mieux pour l'incarner à ma manière.
Comment cette histoire se goûte-t-elle dans votre cuisine et dans les plats que vous préparez?
So I do that by making sure that
je m'assure qu'elle est le reflet de mes ancêtres, y compris dans le choix des produits, des plats que je prépare. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, en tant qu'Afro-américaine issue de la diaspora, pour restituer les saveurs de notre cuisine, qu'elles soient authentiques, vraies, belles. Je veux m'assurer que tout le monde sache que cette cuisine a sa place, sur le devant de la scène. Les saveurs sont riches, les cultures dont elles sont originaires sont riches. Je sais qu'elles peuvent rivaliser avec n'importe quelle cuisine européenne ou autre. Le problème est que les gens ne considèrent pas la cuisine africaine comme une cuisine raffinée, élaborée, comme pouvant être considérée comme de la haute gastronomie. Il y a tout un mouvement aujourd'hui qui se bat pour réfuter cette idée.
N'écoute jamais les hantises qui jactent, n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en bas sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand valait passer le lent. Sans caracher quant à négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé, sans cara, sans chicot, et je fais tes crocs bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma bas, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande, tout me parle pas de pas années. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Rambat assez, j'ai mes cc. Je tourne la poignée, je frasse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Je cale pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Chante avec Ali. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que tes parents, des parents en enfer. Avec un cri, je chante de l'enfer. Sur un grand fer. Bah ouais, chante avec. La crainte à focaliser. La haine que je ressens, mes pensées. Dans ce business balisé. Ah. Chante avec Kali. Kali. Chante avec Kali.
Bécane, dit franco-camerounais Yamé sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec l'athlète olympique américaine Dawn Barrow, devenue cuisinière, chef, top chef même, Bécane. Ce titre que l'on vient tout juste d'écouter, Dawn, c'est vous qui l'avez choisi. Vous savez ce que ça veut dire Bécane en français?
Motorcycle.
Une moto.
Yeah, absolutely.
Vous savez, elle fait fureur sur Instagram, cette chanson. J'ai jeté un œil aux paroles pour savoir de quoi elle parle. De sa bécane. Il aime la vie, il adore rouler avec sa moto. Et je ne sais pas vraiment ce que cela signifie pour lui, cette expérience, mais je me dis, waouh, c'est cool de chevaucher la vie comme ça. Et le son de cette chanson me rappelle vraiment le hip-hop, en fait. Avec tout le respect que je dois à cet artiste, parce que cette chanson est géniale, je l'écoute en boucle, elle me fait du bien, cette chanson.
Et revenons à la cuisine africaine. Elle a la réputation, en France aussi d'ailleurs, d'être grasse, pas très saine, alors qu'en réalité, quand on réfléchit, quand on l'analyse, c'est l'opposé.
Elle est brute, elle est saine, elle est variée.
C'est le malentendu dont pâtissent toutes les cuisines américaines en réalité. Mais ce n'est pas seulement ça. Je pense que cette idée, au fond, c'est du racisme. Pas intentionnel, mais tacite. Sans doute parce que nous ne connaissons pas ou nous ne comprenons pas vraiment les nuances dans les différences des ingrédients que l'on utilise. Tout ce qu'on fait, c'est de frire les choses ou d'ajouter des couches de fromage. Mais il y a d'autres façons de créer de la richesse, et nous le savons tous. La cuisine n'a pas changé. D'accord, je suis une Américaine du sud des États-Unis. La racine de ma cuisine... c'est celle du Sud, la vraie cuisine du Sud, celle qui va de la ferme à la table, des champs à l'assiette. Nos ancêtres étaient des Noirs, des fermiers. Ils mangeaient ce qu'ils cultivaient, frais, tout juste sorti de terre. Dans notre culture afro-américaine, nous avons toujours mangé du porc pour sa graisse, sa viande, son cuir. Nous utilisons l'animal en entier. Nous cuisinons tout dans la graisse de porc parce que cette graisse est gratuite. C'est ça la culture du sud des États-Unis. Et quand je dis la cuisine sud-américaine, c'est la culture américaine. Parce que quand les Noirs ont été arrachés à leurs terres, réduits en esclavage et emmenés aux États-Unis, ils ont été placés dans des plantations. Ils se sont occupés des familles des maîtres, de leurs enfants. Ils les ont nourris. Ils étaient là au point de départ, au tout début, à la naissance de la cuisine sud-américaine. Les Noirs.
Les racines de la cuisine. Elles sont noires.
Yes.
Vous avez parlé de cuisine brute, de potager, de légumes, dans toute cette culture. Vous jardinez, vous aussi?
Il y a eu, si vous voulez, une génération qui a sauté entre celles qui avaient les mains dans la terre et cultivaient, et aujourd'hui. Maintenant, ce sont davantage les migrants qui sont dans les champs. Le travail agricole est devenu trop difficile et les agriculteurs ont trouvé une main-d'œuvre moins chère, des gens prêts à être moins payés pour le même travail. Donc, les fermiers noirs ont été écartés progressivement des champs. C'est pour cela qu'il y a un vide dans l'agriculture noire aujourd'hui.
Et pensez-vous qu'il y a un manque, que ce vide devrait être comblé ?
Oh, yes, yes. Yeah. We're working on filling it again.
Oui, et nous nous efforçons de le combler. Maintenant, le problème que nous rencontrons aux États-Unis, c'est qu'il n'y a plus, pour ainsi dire, d'éducation au bien manger. Surtout chez les plus pauvres. Ils ne mangent plus de légumes, de fruits. Leurs parents sont de la génération micro-ondes, de l'ère fast-food. Et leurs enfants ne savent pas cuisiner une carotte. Donc il faut impérativement réintroduire une éducation alimentaire. En plus des potagers et des cultures pour changer la donne.
En 2020, quand vous avez été semi-finaliste du prix James Byrd, le docteur Jessica B. Harris recevait, elle aussi, un award, un prix, pour l'ensemble de sa carrière et pour son travail, notamment pour son livre « High on the Hog », qui a été porté depuis à la télévision, en série, sur Netflix. Et de quoi parle-t-on donc quand on dit « High on the Hog » ?
High on the Hog refers to...
Ce sont les parties les plus prisées et appréciées du porc, qui étaient réservées aux maîtres dans les plantations. Eux seuls y avaient droit. Entre les deux guerres, après l'esclavage, il était dit de quelqu'un qui pouvait manger ces morceaux qu'il avait réussi dans la vie, qu'il était dans la sphère des décideurs.
Qui sont vos modèles, Dawn, les figures qui vous inspirent?
It's a group of people. It's anyone who is...
Je ne parlerai pas d'une personne, mais de tout un groupe de personnes. Quiconque raconte sa culture par le biais de sa cuisine, je lui tire mon chapeau. La question, le défi, c'est de savoir où se situe le berceau d'une cuisine et qui, à un moment donné, a décidé de ce qui était bon et de ce qui ne l'était pas. Il y a tant de cultures laissées de côté. Si vous arrivez à cuisiner en pensant librement, en dehors des clous et des cases, à cuisiner avec toute la sincérité de votre cœur, ce que vous avez appris en grandissant, alors vous faites votre part. Vous participez à changer le regard que l'on porte sur une cuisine. Je tire mon chapeau à quiconque cuisine ainsi.
Quand vous participez à Top Chef aux États-Unis, que vous êtes reconnue, admirée en tant que femme noire et chef, quel est le message que vous portez auprès des jeunes générations ?
It's a great place to be because I think representation is very important.
C'est génial la télévision en termes de représentation. La représentation, c'est très important. Si une jeune fille comme celle que j'ai été veut faire la même chose que moi, elle a maintenant un exemple. Elle saura que c'est possible et j'en suis heureuse. Être une personnalité publique, c'est aussi une grande responsabilité. Si vous venez, vous aussi, de la classe populaire, vous aussi, vous avez à cœur d'être un bon exemple, de donner le meilleur de vous, de montrer qui vous êtes, la meilleure personne que vous pouvez être.
C'est une responsabilité.
C'est une responsabilité, oui. Et c'est une responsabilité que j'endosse comme une reconnaissance. C'est un honneur, parce que j'ai l'impression que c'est une mission. Je ne l'aurais pas forcément choisi pour moi. Mon objectif a toujours été d'être dans l'arène, dans la compétition, parce que j'aime ça. Je suis compétitrice de nature, c'est vrai. C'est de cette façon que je mesure mes succès. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est mon repère étalon. Je me dis, tiens, si je tente ça, je me demande comment je m'en sortirai. Si j'y arrive, je saurai que je l'ai bien fait. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas être dans cette arène. Ils veulent juste faire leur travail à un très haut niveau. Et je suis heureuse d'être là pour leur montrer que c'est possible.
Vous avez besoin de cette énergie de la compétition, alors.
Cette énergie, est-ce que j'en ai besoin? Oui. Pour n'importe quelle compétition, il faut tenir sur la longueur. J'aime les défis. J'aime tellement cela, d'ailleurs, que mes amis me disent parfois que je crée des situations difficiles juste parce que j'en ai besoin pour m'épanouir. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'aime la compétition, j'aime les challenges.
Le goût du monde. Clémence Denavy sur RFI.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Houston?
Il y fait chaud. Je suis originaire de Pennsylvanie, de Philadelphie. Mais j'aime Houston, c'est une ville formidable, qui change beaucoup, notamment sa cuisine, très diverse, très riche culturellement, avec plein de quartiers et d'endroits un peu à part. C'est une ville énorme, très étendue, super plate, où il y fait super chaud.
C'est une ville qui compte beaucoup dans l'histoire des Noirs américains, dans l'histoire avec un grand H.
We celebrate Juneteenth in the region and...
Oui, surtout parce que nous célébrons Juneteenth. C'est une fête nationale qui commémore le jour où les esclaves afro-américains dans le Sud ont appris qu'ils avaient été émancipés et qu'ils étaient libres. Ils ne l'ont su que 2 ans et demi après tout le monde. Le 19 juin 1865.
C'est une fête célébrée depuis peu au niveau national aux États-Unis, depuis 2021 seulement. Et d'ailleurs, j'ai découvert cette fête uniquement en préparant cette émission. C'est un message pourtant tellement important.
Imaginez ce que j'ai pu ressentir. Je viens du nord-est des États-Unis et nous n'avons jamais célébré Juneteenth quand j'étais enfant. Je n'en avais même pas entendu parler jusqu'à ce que j'arrive au Texas. Cela vous donne une idée de la manière dont l'histoire des Noirs est enseignée et partagée aux États-Unis. Nous ne la connaissons pas ou par bribes. Et ce n'est que lorsqu'elle a attiré l'attention nationale après avoir été nommée fête nationale dans le pays que les gens ont commencé à se renseigner sur cette date, ce 19 juin.
Oui, c'est complètement fou. J'étais sûre que tout le monde connaissait cette date et son histoire. Nous avons parlé de votre cuisine, Dawn, mais vous ne l'avez pas encore vraiment décrite. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui la nourrit, votre cuisine? De quoi est-elle faite? Une cuisine de réconfort, c'est ça?
My style of cooking is global comfort, and I pull from a lot.
Oui, alors j'ai un style globalement très comfort food. Une cuisine réconfortante, consolante. Je m'inspire et je puise dans de nombreuses cultures pour développer ma cuisine. Je suis afro-américaine. Ma famille est originaire du sud des États-Unis. Vous savez, le sud. J'ai une formation en cuisine moderne japonaise, avec des touches de cuisine du sud-est asiatique. Toutes ces choses, ces saveurs, c'est mon professeur chinois qui me les a enseignées, mon entraîneur. Il était comme mon deuxième père pour moi. et je mangeais souvent avec lui et je cuisinais avec sa famille. Toutes ces saveurs reflètent vraiment qui je suis. Toutes ces cuisines sont vraiment devenues les miennes. Ce sont mes expériences. Elles sont ce dont je me suis nourrie, ce que j'ai recherché et appris à aimer. Et donc je cuisine. Je cuisine vraiment toutes ces cuisines et je les ai intégrées dans une perspective mondiale.
Et si vous deviez faire un plat à votre image, virtuellement, le poser là, juste devant nous, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette assiette?
I would serve pan-seared scallops, a ham hock.
Alors, je servirais des coquilles Saint-Jacques poêlées avec un dashi de jarret de porc, des légumes verts braisés et XO créole comme sauce.
As the sauce.
OK.
Yes.
C'est amusant que vous parliez de dashi parce que le dashi, c'est le bouillon japonais. Il est fait d'algues, de lamelles, de katsuobushi, c'est du poisson séché, de la bonite. Et dans la cuisine africaine, dans les fonds et les bouillons, eh bien évidemment, on trouve très souvent des petits poissons séchés.
Des poissons séchés, des poissons fermentés, toutes ces choses aux intersections des cuisines et des continents, des points communs que l'on ne soupçonne pas. Mais il y en a beaucoup. Je les cherche, je les trouve. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'arriver à ce plat que j'ai servi à Top Chef, en fait.
Et c'est la vocation de cette émission, Dawn aussi. C'est de faire apparaître les points communs et les liens entre les continents.
Oh,
c'est incroyable.
Est-ce que vous servez des douceurs comme, je ne sais pas, des pâtisseries sucrées ou bien c'est juste des fruits que vous utilisez?
Oh,
du sucré. J'ai publié une recette dans le magazine Food and Wine. Une recette de gâteau, un autre 4 quarts au cheddar comme on le fait dans le sud, mais aussi dans le nord-est des États-Unis. Le Wisconsin est aussi connu pour son cheddar, ce fromage qui s'associe bien avec le sucré et le salé. J'ai utilisé un cheddar anglais pour cette recette, avec du caramel mis aux pommes et du caramel, et un peu de crème de cheddar, qui n'est pas sucrée. Tout cela s'équilibre merveilleusement. Et ce gâteau incarne tant de cultures différentes. C'est tout ce que j'aime. Le monde, c'est ma cuisine.
That's how I cook.
Et je veux bien essayer votre caramel de miso. Vous aimez la fermentation? Vous travaillez beaucoup la fermentation?
Yes. I ran a fermentation.
J'ai dirigé un laboratoire de fermentation. J'étais avec plusieurs de mes collègues chefs cuisiniers qui avaient eux aussi travaillé dans les laboratoires. J'aime lancer des fermentations chez moi. J'aime beaucoup cela, la fermentation. C'est important.
Et c'est tellement africain, elle est omniprésente dans la cuisine africaine, c'est fou.
Oui, on pense que c'est une culture très spécifique à tel ou tel pays, mais en fait c'est la façon dont les peuples autochtones conservent leur nourriture depuis toujours, faire des réserves.
En regardant votre Instagram, votre page, j'ai vu que vous étiez allée en Éthiopie.
Yes.
Oui, j'ai appris à faire du drorwat, du chiro et de l'aïb, leur fromage frais. Et je n'ai pas eu l'occasion ou le temps de faire la fermentation. Mais j'aimerais beaucoup y retourner et en apprendre davantage.
Il y a une question que je ne vous ai pas posée encore, Dawn. En Afrique, quelles sont vos racines? Où se trouvent-elles?
I don't know.
Je n'en sais rien, je ne sais pas. Cette information s'est perdue au fil du temps. Il faut aller la chercher. Ma tante, du côté de ma mère, a fait un test ADN et moi, je n'ai pas pu le faire. Du côté de mon père, je ne sais rien non plus.
C'est une quête pour vous alors?
Could be.
Ça pourrait l'être, oui. Mais c'est un autre chemin, un voyage.
Mais vous aimez la compétition, vous aimez les challenges.
Oui, c'est un voyage un peu différent d'une compétition. Parce que pour l'entreprendre, il faut être prêt. Prêt pour ce que l'on va découvrir. Et je ne le suis pas. Pas encore.
Merci beaucoup.
Oh, no, thank you. This has been lovely.
Merci, merci à vous. C'était très chouette.
Merci beaucoup, Dawn Burrow, pour ce partage. Pour vous suivre, Dawn, il y a les réseaux sociaux, Instagram et bien sûr sur votre site chefdawnburrow.com. Merci à Sophie Roy-Sultan et au staff de l'ambassade américaine à Paris d'avoir rendu cette rencontre possible, à Cécile Bonici et à Victor Hull pour le son et la réalisation. À tous, à vous tous, de nous écouter chaque week-end en direct ou en replay. Très bonne semaine à tous. Et merci de vos messages.